Le message de ce matin, je l'ai intitulé « Prospérer en temps de crise ». Mon objectif ce matin est de fortifier la foi de chacun d'entre nous. Dans une circonstance, dans une époque, là où chaque fois que nous mettons les informations ou que nous nous renseignons sur la situation économique de la France, de l'Europe, on nous informe qu'il y a une crise que nous connaissons qui est une crise sans précédent. On explique à ceux qui sont à la recherche d'emploi qu'il est plus difficile pour eux de trouver un emploi qu'hier, parce que les emplois se font rares. Pas un mois ne se passe sans qu'on apprenne qu'une entreprise est en train de faire faillite, qu'elle dépose le bilan ou qu'on ferme un site de production. Au milieu de toutes ces informations, les croyants, les chrétiens que nous sommes, avons peut-être des raisons de nous inquiéter, et peut-être pas. Je crois que nous ne pouvons pas, aujourd'hui, nous inquiéter des mêmes choses que les choses dont s'inquiètent les gens du monde. Parce que nous ne sommes pas traités sur le même pied d'égalité. Nous sommes des chrétiens. Oui, je veux le redire encore, nous sommes des fils et des filles du Dieu Très-Haut. Et vous savez, même si dans ce monde dans lequel nous vivons, il y a des difficultés, rien ne nous dit que ces difficultés sont également pour nous. Lorsque Pharaon refusait de laisser partir Israël, la dernière plaie que Dieu a envoyée était un ange destructeur, l'ange de la mort. Mais cet ange-là, aussi méchant qu'il était, devait avoir au moins une capacité, celle de faire la différence entre les Israélites et les Égyptiens. Je dis aux chrétiens ce matin que cette crise doit avoir au moins une capacité, celle de faire la différence entre les fils du roi des rois et ceux qui ne sont pas de Dieu. Vous savez, il ne faut pas s'inquiéter. La Bible dit bien, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Oui. Tu es peut-être là ce matin et tu subis les influences et l'impact de cette crise. Mais la Bible m'enseigne que Élimélec, lui aussi, a rencontré une crise. Au pays d'Israël, la Bible dit qu'il y a une famine dans le pays. La famine est censée, en fait, ne pas faire de cadeaux à personne. Élimélec, ce mari et père, doit assumer la subsistance de toute sa famille. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire face à une crise telle que vous en venez vraiment à vous demander si vous devez rester au même endroit ou si vous devez partir? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire face à des difficultés telles sur votre lieu de travail que vous en venez à vous dire « Finalement, peut-être qu'il vaut mieux pour moi que je cherche une autre activité » Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir tellement de difficultés dans vos études que vous dites « Certainement, je me suis trompé et je n'aurais pas dû m'engager dans cette voie-là » Cela vous est peut-être déjà arrivé. Cette chose-là, cette difficulté est arrivée également à Élimélec. Au temps reculé où Israël n'avait pas encore de roi. Bon. Avant même de parler de la crise, je veux vous intéresser au texte juste avant. On a lu le premier verset du livre de Ruth. Mais le livre de Ruth succède dans notre chronologie au livre de Juges. Et moi, j'ai foi en la Bible. Vous savez, je sais, j'ai rencontré des gens qui considèrent que la Bible, c'est simplement un livre qui contient la parole de Dieu, mais qui est en même temps bourré d'erreurs. Moi, je ne le crois pas. Moi, je crois que la Bible a été miraculeusement sauvegardée par Dieu de toute forme d'erreur. Je crois en ce qu'on appelle l'inhérence de la Bible. Et je crois que Dieu a organisé les choses pour que cette Bible que nous avons aujourd'hui soit exactement la Bible que nous devons avoir. Jusqu'au point, jusqu'à la virgule, jusqu'au mot qui est employé et jusqu'à la façon dont les livres se suivent les uns les autres. Oui, moi je crois en ce miracle-là, c'est une question de foi. Et dans le verset qui termine le livre des juges, le verset 25 de Juges chapitre 21, la Bible répond à une question que je me suis posée parce que je me suis demandé pourquoi il y a-t-il eu famine? Oui, parce que si jamais vous voulez bien agir dans une situation, c'est bien de mieux comprendre la situation, de savoir pourquoi la situation là se présente. Ce verset m'a répondu en cela. Il dit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Point. La Bible nous enseigne qu'à un moment donné en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. À un moment donné en France, chaque trader faisait ce qui lui semblait bon. Chaque organisme de financement faisait ce qui lui semblait bon. Chaque agent, acteur économique faisait ce qui lui semblait bon. Il n'y avait pas de vision globale. Il n'y avait pas de direction. Personne pour dire à telle commune, mais tu ne peux pas emprunter plus que ce que tu gagnes. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Un peu comme à l'époque du temps des juges. Et le résultat de cela, c'est qu'au verset suivant, la Bible nous dit, en ce temps-là, il y a eu famine. Je veux commencer à nous aider ce matin en nous disant que lorsque vous êtes dans un pays, dans une structure, dans une entreprise, dans une organisation, là où chacun fait ce qui lui semble bon, la famine n'est pas loin. Lorsque dans une entreprise, dans une structure, dans un couple, dans un foyer, chacun fait ce qui lui semble bien, ce qui lui semble bon à lui-même, bien aimé, la crise n'est jamais loin. La crise interviendra forcément. Lorsqu'il n'y a pas de roi, lorsqu'il n'y a pas de vision globale, lorsqu'il n'y a pas une autorité qui dit « faisons plutôt comme cela ». Oui, je dis que dans un temps de crise, nous ne pouvons pas maîtriser tous les éléments extérieurs. Mais il y a des choses que nous devons absolument maîtriser. C'est le premier point de mon partage. Je l'ai intitulé famine et intendance, ou famine et administration, ou famine et direction. Oui, parce que la Bible nous dit qu'à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas de roi, chacun faisait ce qui lui semblait bon, et le résultat en a été la famine. La première chose que je veux vous dire ce matin, c'est qu'en temps de crise, vous devez savoir que si vous ne maîtrisez pas les éléments extérieurs, vous pouvez au moins maîtriser les éléments intérieurs. Vous pouvez vous maîtriser vous-même. Vous pouvez maîtriser toutes les choses sur lesquelles vous avez autorité. Je suis en train de vous parler de l'ordre en temps de famine. Le fait de s'organiser en temps de famine diminue l'influence de la crise. Le fait de planifier, de mettre de l'ordre dans sa vie, diminue l'impact du temps de crise. Il y a eu aussi une famine du temps de Joseph. La Bible dit que le Pharaon a été perturbé dans son sommeil parce qu'il voyait d'abord sept vaches grasses qui ensuite étaient dévorées par sept vaches maigres. Et il voyait ensuite sept épis de blé en bonne santé qui ensuite étaient dévorés par sept épis de blé en mauvaise santé. Et il n'en trouvait pas le sommeil. Et là, on est venu chercher Joseph. Alors, Joseph a donné l'interprétation du songe parce que c'est cela que le Pharaon voulait. Mais Joseph est allé plus loin dans son analyse. Il lui a dit d'abord, ces sept vaches maigres, ces sept épis en bonne santé représentent sept années d'abondance. Mais après ces sept années d'abondance, il y aura sept années de famine. Et le Pharaon s'est posé la question de savoir comment est-ce que nous pouvons faire pour que cette famine-là ne nous décime pas. Comment est-ce que nous pouvons nous organiser? Comment nous pouvons faire les choses pour que ces sept ans de famine ne nous détruisent pas? Joseph a dit, il faut que tu trouves un homme qui va administrer les biens de l'Égypte, qui va faire de l'intendance sur les récoltes de l'Égypte pendant les 7 années. C'est l'ordre que Joseph est venu instaurer qui a sauvé l'Égypte de la famine. Bien-aimés, en temps de crise, si vous succombez au désordre, vous aurez l'impression de vivre une crise encore plus grave que celle que vivent vos contemporains. La solution que Joseph apporte au problème de l'Égypte n'est pas une solution spirituelle. Dis avec moi, pas une solution spirituelle. La solution de Joseph au problème de famine de l'Égypte, c'est l'ordre. Oui, l'ordre est la première solution en temps de crise. Lorsque tu es dans un temps de famine, pose-toi d'abord la question de savoir comment est-ce que tu vis aujourd'hui. Il y a des gens qui se satisfont d'avoir une maison toujours en désordre. Je ne suis pas surpris que vous soyez souvent déprimé. Vous arrivez dans votre maison, le lit est sens dessus-dessous, les habits sont jetés sur tous les meubles, ainsi de suite. En fait, sur le domaine dans lequel vous exercez votre autorité, il y a déjà du désordre. C'est normal que lorsque vous alliez à l'extérieur, vous ayez l'impression que tout se désorganise autour de vous, que tout se désagrège. La première solution face à la famine, mes amis, je veux vous le dire ce matin, c'est l'ordre. Face à la crise de la foi dans notre pays, la solution de l'Église, face à cette crise de la foi, c'est l'ordre. Dis avec moi l'ordre. La solution au problème que nous rencontrons aujourd'hui en temps de crise, c'est d'abord de mettre de l'ordre. Et c'est pour ça que je veux le mettre en lien avec ce que nous avons dit la semaine dernière. C'est qu'il nous faut savoir avec précision ce que nous possédons. Il faut d'abord savoir avec précision ce que je possède, ce que j'ai. C'est le principe de l'intendance. Vous savez, Joseph était un étranger. J'imagine difficilement comment les Égyptiens ont fait. Lorsqu'ils faisaient leur récolte et que Joseph se pointait, un Hébreu, dans le pays des Égyptiens, pour leur dire, donnez-moi une partie de votre récolte parce que je veux garder ça quelque part. Joseph, toi tu es étranger dans notre pays. C'est toi qui vas venir faire la loi à l'intérieur de chez nous. Comment est-ce que les Égyptiens, pour quelles raisons les Égyptiens se sont-ils soumis à Joseph? Parce que l'ordre venait de Pharaon. Joseph bénéficiait de ce que nous appelons une autorité déléguée. Je veux nous aider ce matin. Vous savez, dans l'Église, le pasteur ne peut pas tout faire. Et Dieu ne lui demande pas de tout faire. Par contre, il a la responsabilité de trouver des hommes et des femmes qu'il va établir sur certains domaines pour que l'Église soit ordonnée, pour qu'elle soit organisée. Et ces personnes-là bénéficient de ce qu'on appelle une autorité déléguée. Ça veut dire que celui qui se trouvait en face de Joseph et qui obéissait à Joseph, en réalité n'obéissait pas à Joseph, mais à Pharaon qui avait établi Joseph. Donc, dans le cadre du corps de Christ, lorsque vous avez une autorité qui peut être moins âgée que vous, qui peut avoir moins d'années d'expérience dans le ministère que vous, mais qui est quand même l'autorité déléguée, lorsque cette personne vous parle, en réalité, ce n'est pas elle, mais c'est l'autorité initiale qu'il a établie. Je crois que nous avons besoin de comprendre cela ici, bien-aimés. Dieu ne comptera pas ton temps de prière pour dire est-ce que tu dois obéir à une autorité déléguée ou pas. Toute personne qui désobéissait à Joseph, par la même occasion, désobéissait exactement à Pharaon. C'était un acte de révolte contre Pharaon. Le principe de l'autorité déléguée est extrêmement important. Nous devons le comprendre. Parce que si jamais nous n'arrivons pas à fonctionner dans cette dimension, la famine interviendra. Travailler dans une organisation où la seule règle, c'est de faire ce que bon me semble, en fait, c'est participer à la destruction de cette organisation. Alléluia. Pour que l'Église avance, pour que l'Église prospère, pour que l'Église progresse, elle a besoin de s'organiser. Elle a besoin d'établir des hommes et des femmes qui vont conduire la vision, qui vont permettre de porter la vision et de la conduire, de la matérialiser dans le quotidien du corps de Christ. L'autorité déléguée est un principe important. Et c'est l'intendance, c'est l'ordre, c'est l'administration, c'est l'organisation qui vous permet de sortir d'un temps de crise. Quelle est la situation de votre compte bancaire aujourd'hui ? Je suis sûr que s'il est en difficulté, ce n'est pas simplement que vos charges excèdent vos revenus. Souvent, c'est que dans notre gestion financière, il y a du désordre. Souvent, c'est que nous dépensons d'abord pour des choses qui sont secondaires. Et ensuite, nous mettons sur la tête, les mains sur la tête parce que nous n'avons plus suffisamment pour les choses prioritaires. Il y a des gens qui, lorsqu'ils reçoivent leur salaire à la fin du mois, vont d'abord faire les soldes parce que c'est la dernière semaine des soldes. Et puis quand ils ont fini les soldes, ils mettent les mains sur la tête parce que je n'ai plus d'argent pour payer mon loyer. L'intendance, la gestion organisée, la gestion ordonnée vous permet de réduire l'impact d'une crise dans votre vie. Je ne sais pas de quelle crise il s'agit. Nous parlons effectivement d'une crise globale, mais même dans les crises que vous avez dans votre relationnel, en rapport avec des gens, commencez à ordonner les choses. Commencez à organiser les choses. Je réalise que Paul, chaque fois que je lui dis un secret, il divulgue mon secret à tout le monde. La solution dans cette crise-là, c'est d'organiser mon rapport avec Paul. J'ai plusieurs connaissances, donc Paul fait partie des connaissances auxquelles je ne donne jamais de secret. Je m'organise dans ma relation avec les gens. Cela me permet, en temps de crise, de limiter l'impact de la crise sur ma vie. Non, parce que vous devez comprendre que Dieu ne nous demande pas d'être amis intimes avec tout le monde. Non, dis ça à ton voisin, il n'a pas bien compris. Non, Dieu ne te demande pas d'être l'ami intime de tout le monde dans l'église. Alléluia. Même sur ton lieu de travail, il ne te le demande pas. Ok, les chrétiens ont des standards bibliques. Ok, c'est, la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. C'est pas écrit. Alléluia. Ce que Dieu nous demande en tant que chrétiens, c'est d'être cordiaux, courtois, poli et bienveillant envers tout le monde. Pas d'être intime. Ce que Dieu veut, c'est que lorsque vous rencontrez quelqu'un, même avec qui vous n'avez pas d'affinité, vous ayez la possibilité de dire bonjour à la personne avec un sourire. Vous ayez la possibilité de lui faire un saint baiser. Vous ayez la possibilité de lui dire que Dieu te bénisse. Ça, c'est le minimum. Et le chrétien ne doit jamais descendre en dessous. Quelles que soient les tribulations, quels que soient les problèmes que tu as avec quelqu'un, que ce soit quelqu'un dans l'église, que ce soit quelqu'un en dehors de l'église. J'ai quelqu'un sur mon lieu de travail qui est venu me poser des problèmes. En fait, elle voulait me faire fonctionner à la manière du monde. Oui, donc on ne se parle plus. Je l'ai regardé, je lui ai dit franchement, arrête-moi tes histoires de cours de récréation. Ok, si j'ai quelque chose à te dire, je te le dirai. Parce que selon mon entendement, je ne peux pas être avec quelqu'un à qui je ne parle pas. Mais ils sont pleins, les chrétiens. Lui, je ne lui parle plus. La dernière fois, il m'a regardé comme ça, il m'a regardé de travers. Là, tu es en train de descendre dans les standards. Le standard minimum, c'est ce que j'appelle le SMIC. Le salaire minimum que ton frère est en droit d'attendre de toi, de dire « paye-moi mon salaire minimum », c'est sourire, saint baiser, que Dieu te bénisse et bienveillance. C'est ça. Si tu n'as pas donné ça, en fait, tu es en deçà. Tu es descendu en dessous du standing. Et tu es débiteur. Alléluia. Oh, touche ton voisin du lit, paye-moi mon salaire. Paye-moi mon salaire de bienveillance. Paye-moi mon salaire d'amour. Alléluia, mon salaire de joie. C'est pas une faveur que tu lui fais quand tu lui souris. C'est pas une faveur, c'est ce que tu dois lui donner. Alléluia, mais sans oublier le principe de l'intendance, sans oublier le principe de l'ordre, sans oublier le principe de l'organisation, de la planification. Ok, lorsque je vois telle personne, je me rends compte que cette personne-là, elle ne peut pas garder un secret. Donc je m'organise, ne jamais lui livrer de secret. Non, mais quand vous êtes dans une maison, il y a un père, une mère et les enfants. Papa et maman ont de l'amour pour les enfants, mais est-ce qu'ils parlent de tous les sujets devant les enfants? Le fait de ne pas parler de tous les sujets devant les enfants ne signifie pas que papa et maman n'aiment pas les enfants. Mais il faut une certaine organisation. Il y a des choses dont vous pouvez parler à certaines personnes. Et souvent, nous augmentons l'influence de nos problèmes parce que nous ne savons pas ou nous parlons aux mauvaises personnes de nos problèmes. Alléluia. Je dis, dans ce temps de crise que nous rencontrons, l'organisation doit être élevée à un standard supérieur. L'organisation, c'est de pouvoir être à l'heure à vos rendez-vous. Vos rendez-vous dans le monde, mais vos rendez-vous aussi à l'église. Moi, je me rends compte qu'il y a des gens pour qui le culte commence à 10h30. Bon, peut-être que nous n'avons pas donné la bonne information. À Shiloh, le culte commence à 10h. 00. Alléluia. Bon, c'est encore mieux si vous venez avant. Mais 10h30, ce n'est pas l'heure du début du culte. Et puis, parfois, nous arrivons à 10h30 parce que nous avons eu un empêchement, nous sommes en retard. Mais la manière dont nous marchons pour entrer dans la salle de culte montre bien que nous ne nous sentons pas dérangés. En fait, nous prenons le temps de marcher doucement, d'arranger notre chevelure, d'arranger ceci ou cela, de faire une bise, deux bises. Nous sommes en retard, Dieu est présent, c'est lui l'autorité, mais c'est lui qui nous attend. Je dis, en temps de crise, il faut de l'ordre. Il faut s'organiser pour que les choses soient bien faites. Je ne sais pas si la SNCF change les horaires de train toutes les semaines. Mais normalement, on est censé connaître l'horaire de son train pour être à l'heure à l'église. Ça devient quand même bizarre quand systématiquement, le train que je prends, c'est toujours le train d'après. Ce que nous ne réalisons pas, c'est qu'en faisant cela, nous amplifions l'impact de la crise à l'intérieur de nos vies. Oui, et je vais vous le montrer très simplement. On va avancer. Donc, la première chose que nous devons faire pour prospérer en temps de crise, c'est de nous organiser. Tu n'as plus qu'une faible somme à gérer pour tout le mois. Organise-toi. Vérifie ce qui est le plus important. Regarde ce qui est le moins important. Organise-toi. Ton organisation va te permettre de limiter l'impact de cette crise. Le deuxième élément que je relève dans cette histoire d'Élimélec, c'est que la famine peut aussi intervenir dans le lieu, en fait, en Israël. Ça ne vous semble peut-être pas bizarre, moi ça m'inquiète. Parce que ce pays-là, c'est le pays dont Dieu a dit, c'est le pays où coule le lait et le miel. C'est la terre de la bénédiction. Israël, c'est la terre de ta bénédiction. C'est le domaine dans lequel Dieu t'a envoyé pour que tu règnes. C'est le domaine dans lequel, en te faisant sortir d'Égypte, Dieu t'a emmené en disant « là, tu seras bien ». C'est le domaine dont Dieu dit « pour toi, ce pays-là, c'est le plus beau de tous les pays ». C'est le champ d'activité dans lequel Dieu dit « là, je te bénirai ». Mais tu peux être dans ton champ d'activité, dans le domaine dans lequel Dieu t'a placé, et connaître quand même la famine. Ça vous semble pas bizarre? Voyez-vous, même quand on est dans le pays que Dieu nous a donné, il peut y avoir des circonstances défavorables. Même quand vous êtes dans la saison de votre bénédiction, vous ne devez pas oublier que même quand on est dans sa saison, dans une saison, il y a toujours le jour et la nuit. Et souvent, nous omettons cela, nous omettons ce détail. Et à chaque fois que la nuit commence à tomber sur notre vie, nous nous disons, certainement, je ne suis pas là où Dieu veut que je sois. Certainement, je ne fais pas ce que Dieu veut que je fasse. Mais je comprends ici que ce n'est pas vrai. Je peux être exactement là où Dieu m'a appelé à être et vivre quand même des difficultés. En fait, je vais dire ça autrement. Quand je suis là où Dieu m'a appelé à être, je dois aussi vivre des difficultés. Je dois me préparer à vivre aussi des difficultés dans le lieu de ma bénédiction. Sauf que ces difficultés-là n'ont pas la même définition que les difficultés que je rencontrerai lorsque je suis à l'extérieur de l'endroit dans lequel Dieu m'a appelé. Quand je suis à l'intérieur, ces difficultés-là, on appelle ça des épreuves. Ce sont des examens par lesquels Dieu me fait passer pour m'emmener dans un niveau supérieur. Maintenant, quand je suis à l'extérieur, on n'appelle plus ça des épreuves. On appelle ça simplement l'oppression. Le diable m'oppresse parce que je ne suis pas là où je dois être. La famine ne signifie pas que tu marches contre la volonté de Dieu. La famine en Israël ne signifie pas que tu es au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est important que je dise ces choses parce que lorsqu'il a expérimenté cette difficulté, Élimélec a dit, avec lui et sa famille, nous ne resterons pas en cet endroit. Ils ont entendu qu'il y avait du pain à Moab, il y avait du grain à Moab. Et ils ont dit, puisqu'en Israël, là où nous nous trouvons, il n'y a que famine, pour que les miens puissent subsister, moi je vais aller avec ma famille séjourner. Dis avec moi séjourner. Séjourner, ça veut dire je vais faire un séjour. Séjourner, ça veut dire je ne vais pas pour très longtemps. Séjourner, ça veut dire je vais m'installer simplement le temps que ça se calme et ensuite je reviens. Mais c'est un peu comme ça que nous réagissons en temps de famine. Oui. J'ai entendu l'histoire de cette sœur. Fatiguée d'être en Israël, en fait d'être dans la maison de Dieu, fatiguée d'être dans l'église sans trouver son mari, a décidé pendant un court instant d'aller séjourner à Moab. Oui, il y en a comme ça. Qui décident d'aller chercher l'homme de leur vie ou la femme de leur vie à l'extérieur de la maison de Dieu sous prétexte que en Israël, il y a famine. Sous prétexte que dans l'église, il y a pénurie d'hommes, pénurie de femmes. En fait, souvent, ce n'est pas qu'il y a pénurie d'hommes et de femmes, c'est qu'il y a pénurie de l'homme, du type d'homme que l'on recherche, ou pénurie du type de femme que l'on recherche. Parce que comme on recherche une femme qui... Comme on recherche un homme qui... Et qu'on ne trouve pas ce type d'homme dans la maison de Dieu, on est convaincu qu'alors notre mari ou notre femme n'est pas dans la maison de Dieu. On m'a raconté l'histoire de cette femme qui était, elle était dans une église avec un monsieur qui est venu la voir. En fait, c'était à la suite d'un entretien qu'elle avait eu avec un pasteur. Elle est venue simplement, elle l'a emmené au restaurant, elle a dit « Pasteur, vraiment, je veux te faire du bien. J'ai envie de te faire du bien. » Donc, elle a emmené son pasteur, elle a invité son pasteur au restaurant. Il est allé, et puis il est allé s'asseoir, et puis il a mangé. Et puis quand il a fini de manger, elle a sorti une enveloppe. Mais quand elle a sorti l'enveloppe, le pasteur a ouvert, il a regardé. Il a vu ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Tout de suite, il a parlé en langue. Tu sais, le genre de parler en langue qui est obligé de sortir. Tout de suite, il a parlé en langue. Il a dit, je te l'affirme, pas plus loin que cette année, tu te maries. Alors la femme, elle a éclaté de rire. Elle dit, oh pasteur, pardon, prends seulement. Ok, il n'y a pas de problème, arrête de me tromper, ne me dis pas n'importe quoi, ainsi de suite. Le pasteur n'a rien dit, il a simplement pris l'offrande, il est parti. Je crois la semaine qui a suivi, il y avait un séminaire à l'église. Les séminaires que beaucoup de chrétiens aiment souvent manquer. Et puis à ce séminaire-là, la sœur, on vient, on l'installe, le protocole est installé à un endroit bien précis. Vous savez, le genre de chaise que vous refusez souvent quand le protocole vous installe à ces endroits-là. Sauf que le protocole était inspiré par Dieu. Et que souvent, le protocole, avant de vous placer, ils ont prié par rapport à leur service. Ils ont dit, Seigneur, aide-nous à bien faire ce que nous faisons. Aide-nous à placer les gens exactement là où ils doivent être. Bon, certains pensent que c'est simplement une façon de faire. Elle, on l'a placée à cet endroit-là. Et puis à cet endroit, il y a un monsieur qui vient s'asseoir juste à côté. Mais vraiment le monsieur que vous voulez jamais voir. Il a la barbe depuis plus d'une semaine. Il est en short. Il a des babouches qu'on appelle communément chez nous les sans confiance. Donc tu vois que c'est quelqu'un à qui tu ne peux pas faire confiance. Et puis il est assis juste à côté d'elle. Et puis tout le programme passe. Et puis à la fin, il commence à parler avec la sœur en disant « Est-ce que je peux avoir votre numéro de téléphone ?» et ainsi de suite. Tout de suite, la sœur, elle allait voir le pasteur. Elle est rentrée de manière tumultueuse dans son bureau. « Pasteur, qu'est-ce que je t'ai fait ?»« Pasteur, qu'est-ce que je t'ai fait? Le restaurant que tu as mangé là, c'était pas bon. Bah, si, j'ai bien mangé. L'offrande là, tu n'as pas aimé. Mais si, c'était une bonne offrande. Mais pasteur, comment tu peux me faire ça? Donc le pasteur lui dit, assieds-toi, raconte-moi. Non, pasteur, moi je suis tranquille pour moi à la conférence. J'ai un monsieur qui est comme un clochard qui vient maintenant me demander mon numéro de téléphone. Ah, la sœur, elle avait mal dans son cœur. Et puis le pasteur lui a dit, bon, lui donner ton numéro de téléphone, ça ne coûte rien. Et puis, de fil en aiguille, je vais un petit peu plus vite. De fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'en fait, ce monsieur-là qui avait l'apparence d'un clochard était en train de sortir d'une longue phase de dépression parce que sa femme l'avait quitté avec les enfants et que ça faisait plusieurs mois maintenant qu'il se laissait aller et qu'en fait, c'était un homme d'affaires extrêmement riche. Et que quand il a vu cette personne-là, en fait, il a ressenti une joie qu'il n'avait plus ressentie depuis longtemps. Simplement parce qu'elle a accepté de gratter un petit peu les apparences. Elle s'est rendue compte qu'en fait, la personne qu'elle voyait là n'était pas la personne qu'elle avait cru voir. Alors, je vous raconte cette histoire pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a des gens que vous regardez comme n'étant pas à la hauteur, comme n'étant pas au niveau de vos attentes et de vos espérances. Je parle aussi bien à des femmes qu'à des hommes. Il y a des gens que vous considérez comme n'étant pas à la mesure de vos exigences, qui n'ont peut-être pas le nez aussi fin que le nez que vous auriez voulu voir sur votre mari ou sur votre épouse. Mais si vous acceptez parfois de gratter un peu les apparences, il est possible que vous découvriez exactement la personne que Dieu a prévue pour vous. Alléluia. Oui, même quand on est en Israël, on peut connaître des temps de pénurie, des temps de famine. Le problème d'Israël dans le désert, ce n'est pas qu'Israël n'avait rien à manger. C'est que Israël voulait manger un plat particulier. Nous, nous voulons le poisson, le concombre et la viande que nous mangions en Égypte. Nous ne voulons plus, nous sommes fatigués de cette manne qui descend du ciel. Nous voulons autre chose. Sauf qu'ils ne savaient pas que la manne qu'ils mangeaient là était une préfiguration de la manne que tous les hommes doivent manger s'ils veulent avoir l'éternité. Souvent, nous méprisons et nous négligeons ce que Dieu met à notre disposition aujourd'hui et nous pleurons demain. Cette autre femme, elle négligeait quelqu'un dans l'église qui lui avait demandé sa main. Elle disait, mais toi, comment est-ce que tu peux avoir l'audace, le courage de venir me demander ma main? Sauf que le monsieur qui s'est senti embarré a finalement épousé une autre femme. Et puis quand il a épousé l'autre femme a tellement pris soin de lui, elle s'est tellement bien occupée de lui, qu'à la fin, il n'avait plus rien à voir avec le monsieur initial. Et l'autre, que les larmes pour pleurer, que les yeux pour pleurer, la tristesse dire, si seulement j'avais su. Tu vois, même en Israël, on peut connaître des temps de famine, ça ne signifie pas qu'on est en dehors de la volonté de Dieu. Même dans le travail que Dieu t'a donné, tu peux connaître des temps là où tu es fatigué d'aller travailler. Des temps là où tu n'as plus envie de voir tes collègues. Des temps là où tu n'as plus envie de faire quoi que ce soit. Pourtant, tu es exactement à l'endroit dans lequel Dieu a voulu te placer. Le fait que tu ne te sentes pas content, que tu ne te sentes pas heureux pendant un laps de temps, ne signifie pas forcément que Dieu ne t'a pas appelé à cette activité. Ouais. Mais pour Élimélec, il fallait partir. Il n'est d'ailleurs pas le seul à avoir agi de la sorte. Mais l'avenir d'Élimélec nous montre que ce n'était pas la bonne décision à prendre. Moab n'a pas besoin que vous alliez vous installer là-bas définitivement pour vous détruire. Moab n'a pas besoin que vous fassiez le choix de vivre là-bas 10 ans, 20 ans pour vous détruire. Il suffit d'un séjour à Moab. Juste un séjour. Moab, c'est le type, c'est l'exemple de l'endroit dans lequel Dieu ne vous a pas appelé. du domaine d'activité que Dieu ne vous a pas donné, dans lequel Dieu ne vous a pas établi, et dans lequel nous acceptons régulièrement de séjourner. Non, je n'y vais pas pour longtemps, je vais simplement pour quelques instants. Je vais simplement prendre ce dont j'ai besoin. Je vais simplement pour une fois, pour un soir, mais ça fait déjà tellement longtemps que je ne suis pas allé à ce genre de soirée, mais je peux au moins y aller aujourd'hui, au moins cette fois-ci. Moab n'a pas besoin que vous décidiez de passer toutes les nuits de votre vie là-bas. Un séjour est suffisant. Un séjour a été suffisant à Élimélec. Il est parti, il n'est jamais revenu. Il est mort à Moab. Non seulement lui est mort, mais son premier fils également est mort à Moab. Son deuxième fils aussi est mort à Moab. Pratiquement toute sa famille a été décimée juste parce qu'il a accepté de séjourner à Moab. Je dis, Moab ne te sera jamais avantageux. L'endroit dans lequel tu penses que tu devrais aller vivre, au moins pour un temps, au moins le temps de faire ton enfant, au moins le temps d'avoir un homme, je dis, cet endroit-là suffira pendant, il lui suffira de quelques jours seulement pour te détruire, pour te désorienter complètement de ta destinée, pour s'organiser de manière à ce que tu ne reviennes plus jamais. Il partait en se disant, je vais revenir dans la maison. Il partait en se disant, je serai à nouveau en Israël dans quelques années seulement. Mais il n'est jamais revenu. Je veux aider quelqu'un aujourd'hui. En temps de crise, la solution, ce n'est pas toujours de partir. La solution est même très rarement de partir. Parce qu'on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Oui, tu te plains tout le temps de cet homme qui n'est pas aimant, qui n'est pas romantique, qui n'est pas gentil, qui n'est pas doux, qui n'est pas agréable. Tu te plains tout le temps de lui. Sauf que le jour là où tu le perdras, tu ne sais pas l'homme qui va le remplacer. Il y a quelqu'un qui a dit que c'était un de ses collègues qui lui disait, moi je suis fatigué de ma femme et j'ai envie de changer de femme. Et le pasteur lui a répondu, on ne change pas de femme parce qu'on ne change pas la femme. Ouais, ça ne sert à rien de changer de femme. Ok, tu es marié, tu te dis certainement si je suis avec telle, ma vie sera plus douce. Tu vois seulement telle de l'extérieur. Mais on ne peut pas les changer. Elles sont comme ça. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Oui, dans le lieu d'abondance aussi, il y a des temps de crise. Même dans le mariage dans lequel Dieu t'a envoyé lui-même, tu as entendu le son de sa voix. Même dans ce mariage-là, il y aura des temps de crise. Moi, je me souviens lorsque l'évêque célébrait notre mariage à mon épouse et à moi, il a dit, je ne dis pas si jamais il y a des problèmes parce que je sais qu'il y aura des problèmes. Parce que dans un mariage normal, en fait, il y a forcément des problèmes. Et puis l'exemple qu'on prend pour l'expliquer généralement, c'est que quand vous avez un enfant dans une maison qui ne tombe jamais malade, il faut vous inquiéter. Parce que le jour là où il va tomber malade, il risque de mourir. C'est quand il tombe un peu malade de temps en temps que son corps se formate, que son organisme biologique se met en place pour pouvoir lutter contre les agressions extérieures. Mais l'enfant qui ne tombe jamais malade, quand il tombe malade, en général, vous finissez à l'hôpital. C'est urgent. Les médecins vous disent, si jamais vous ne l'aviez pas emmené 5 minutes avant, vous le perdiez. Dans un couple, c'est la même chose. Les difficultés que vous rencontrez, parfois au niveau du caractère, au niveau de la manière de voir les choses, ces difficultés-là, en réalité, ont pour objectif de vous emmener à vous formater pour que quand les vraies difficultés arriveront, quand la tempête se lèvera, vous pourrez résister fermement. Arrête de fuir les difficultés. Il faut à un moment donné que tu les affrontes. Alléluia. Dans une affaire dont vous connaissez les mauvais fondements, mais dans laquelle vous acceptez de séjourner, vous risquez de finir décimé. Et Moab ne vous sera jamais d'aucun avantage. Le troisième élément que je voudrais voir avec vous est en fait la réponse finale à la question que chacun d'entre nous se pose. Mais dans ce cas, qu'est-ce que Élimélec aurait dû faire? Aurait-il dû rester en Israël et voir finalement sa femme et ses enfants mourir de faim à cause de la famine? Quelle est la volonté de Dieu lorsque nous sommes dans un temps de crise? Quelle est la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui, pour nos carrières professionnelles? Lorsqu'on nous dit tous les jours que nous sommes vraiment ennuyés parce qu'il n'y a plus d'emploi. On m'a raconté l'histoire d'une firme de chaussures qui, à l'heure de la globalisation, avait entrepris de s'implanter en Inde. C'était dans des temps assez reculés. Et puis, ils ont envoyé un premier vendeur qui est arrivé sur place. Et il a eu la plus désagréable surprise de toute sa vie. Tout de suite, il a pris son téléphone. Il a dit, mais qu'est-ce que vous m'avez envoyé faire ici? Les gens ne portent pas de chaussures. Tout le monde se balade pieds nus. Renvoyez-moi vite un billet, je rentre. Voilà comment l'implantation allait avorter. Il est rentré, lui et sa famille. Et puis bon, dans le doute, on a quand même envoyé un deuxième vendeur. Il n'a pas rappelé tout de suite. C'est un mois après qu'il appelle, tout excité, en disant, il faut absolument que vous m'envoyiez davantage de chaussures. Je vais être en rupture de stock parce qu'ici, personne ne porte de chaussures. Dans la même situation, l'un a une perspective selon laquelle je ne peux rien faire. Personne ne porte de chaussures. Lui, il est arrivé dans l'endroit. Il a convaincu les gens que finalement, marcher pieds nus, ce n'était pas si bien. Il valait mieux avoir des chaussures. Et en plus, ça tombe bien parce que c'est moi qui vous offre les chaussures dont vous avez besoin. Et puis, il y a un qui a commencé à les mettre. Et puis, celui qui le regardait à côté a dit, mais c'est pas mal ça. Et puis, il a aussi, et puis au fur et à mesure, il s'est retrouvé sans chaussures. Envoyez-moi encore des stocks. Je vous raconte cette histoire pour vous montrer que face à la même situation, face à la même période de crise que nous rencontrons, il y a des opportunités. Oui. Face au même problème, tout dépend de votre perspective. Comment est-ce que vous voyez les choses? Si vous ne voyez que des problèmes, alors il n'y aura que des problèmes. Si vous ne voyez que des difficultés, il n'y en aura que pour les difficultés. Mais vous pouvez être dans une période de crise et accepter de voir les choses différemment. Je pousse un petit peu plus. Quelle est l'action à avoir pendant la famine? C'est dans la vie d'Isaac qu'on découvre la réponse claire de Dieu. La véritable attitude à avoir en temps de famine lorsque Dieu vous a parlé. Genèse 26, au verset 2. Vous savez qu'il y avait aussi une famine au temps d'Abraham et que Abraham était parti en Égypte pour fuir cette famine. Sauf que l'Égypte était un danger pour Abraham. De peur d'être tué, il a dû prétexter que Sarah n'était pas sa femme, mais qu'elle était sa sœur. Bon, c'est un passage là où nous, en fait, que nous allons, sur lequel nous passons assez vite. Mais l'histoire est bien plus grave que ce que nous voyons dans les quelques lignes que nous lisons. Parce que la Bible dit que le Pharaon a pris Sarah, puisqu'elle était la sœur d'Abraham, et qu'il a donné à Abraham beaucoup d'argent. Donc ça veut dire que Abraham, en fait, ce gars-là, il était extrêmement fort. Il voyait Pharaon se balader avec sa femme. Il voyait Pharaon dire des mots doux à sa femme. Et il ne réagissait pas parce que c'était soi-disant sa sœur. Il a fallu que Dieu intervienne, que Dieu frappe toute la maison de Pharaon. Et puis Dieu lui dit, c'est moi qui ai fait, qui me suis organisé pour que tu ne la touches pas. Donc l'histoire aurait pu être véritablement très très tragique. À cause du mensonge d'Abraham, mais plus encore, parce que Abraham était allé en Égypte pour fuir la famine. Et puis, Abraham est parti une première fois. Il y a eu une autre famine, il est parti encore. Et puis, il a fait la même histoire avec Abimélec. Mais quand le premier pharaon s'est rendu compte que, en fait, Sarah était la femme d'Abraham, la Bible dit que Pharaon a donné beaucoup de présents à Abraham, comme pour se faire pardonner, pour effacer un petit peu ce qui venait de se passer. Peut-être que ça a été la base de l'enrichissement d'Abraham. Sauf que dans les cadeaux que Pharaon a fait à Abraham, il lui a aussi donné une servante. En fait, il lui a donné des serviteurs et des servantes. Et au nombre de ces servantes-là, il y avait Agar. Agar n'était pas une Cananéenne. Agar était égyptienne. Elle a été donnée à Abraham à ce moment-là. Donc, Abraham est certes revenu d'Égypte en bonne santé. Il est certainement revenu d'Égypte avec sa femme. Il pouvait se dire, mon séjour finalement s'est bien passé. J'ai fait le bon choix. Ce qu'il ne savait pas, c'est que dans ses bagages, il était revenu avec celle qui allait donner naissance à Ismaël. Ismaël qui serait le piège de tous les descendants d'Abraham à cause d'un petit séjour en Égypte. Quand vous faites le choix de séjourner en Égypte ou à Moab, il y a des choses que vous ramenez. Lorsque Naomi est arrivée, elle est revenue de Moab. Et qu'elle est arrivée, tout le monde a dit, n'est-ce pas là Naomi? Elle a dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, ce qui signifie amer. Quand tu séjournes à Moab, quand tu séjournes en Égypte, tu reviens forcément avec quelque chose. Bon, j'ouvre simplement une petite parenthèse. Vous savez que Abraham ne voulait pas chasser Ismaël. Abraham ne voulait pas chasser Agar. Hein? Je vais vous livrer un secret. Quand vous avez identifié qu'il y a une maison qui doit vous bénir, il y a une famille qui doit vous bénir, quand vous avez identifié qu'il y a une maison qui doit être une source de bénédiction pour votre vie, faites attention à la manière dont vous réagissez avec la Sarah de la maison. Souvent, nous rentrons dans des maisons et nous prenons soin de l'Abraham. Et puis, nous faisons la guerre à Sarah. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que pour qu'une maison ne nous vomisse pas, il faut que nous soyons acceptés par Abraham et aussi par Sarah. Je ferme la parenthèse. La Bible nous enseigne que lorsque Abraham revient, il revient avec Agar. Plus tard, son fils aussi. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, je vous ai parlé d'Abraham et Sarah. On est d'accord? Bon. Lorsque Isaac, à son tour, va également en Égypte, Dieu lui parle. Son père avait fait l'erreur à plusieurs reprises. Mais pour Isaac, Dieu lui dit autre chose. Dieu lui dit en Genèse 26 au verset 2, « Ne descends pas en Égypte. » C'est ça que Dieu te dit en temps de crise. C'est exactement ce que Dieu te dit. Aujourd'hui, tu fais face à une crise. Dieu dit, en fait, c'est l'Éternel lui est apparu et dit, ne descends pas en Égypte. Il va plus loin, virgule. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Séjourne dans ce pays-ci et je te bénirai. C'est bizarre. Parce que Dieu dit à Isaac, en fait, Dieu ne lui dit pas ne va pas en Égypte. Dieu lui dit ne descends pas en Égypte. Ça veut dire que tu ne peux pas aller en Égypte sans descendre. Tu ne peux pas aller en Égypte sans baisser dans ta vie de prière. Tu ne peux pas aller en Égypte sans baisser dans tes aspirations, sans baisser dans tes promesses, sans baisser dans ton accomplissement, sans baisser dans ton accroissement, sans baisser. Quand tu vas en Égypte, forcément tu es en train de descendre. Dieu lui dit ne descends pas. Et c'est là le secret que nous devons maintenir très élevé en temps de crise. En temps de crise, il ne faut pas descendre. En temps de crise, il faut refuser de descendre. n'est pas simplement une situation géographique, c'est beaucoup plus que cela. Parce que qu'est-ce qui se passe en temps de crise ? En temps de crise, généralement, celui qui avait l'habitude de... Ce n'est pas le bon exemple, mais je vais quand même le donner. Vous alliez dans un magasin, la marque que vous preniez, en fait, vous preniez toujours la marque qui était la plus adaptée pour vos enfants. OK ? Une marque qui est faite avec des produits naturels, dans laquelle il n'y a pas trop d'additifs, dans laquelle il n'y a pas trop de produits chimiques, parce que vous vouliez préserver la santé de vos enfants. Et quand la crise arrive, finalement, vous êtes comme obligé de descendre. Et c'est pratiquement, c'est exactement ce que nous faisons, parce que, en général, ces marques-là, elles sont devant nous, dans les rayons. Et puis, quand il faut prendre la marque que je ne dis, dont je ne dis pas le nom là, il faut généralement se baisser. Dis à ton voisin, ne descend pas. Il y a des gens qui vont maintenant dans les magasins et quand ils en ressortent, ils ont des courbatures parce qu'ils passent leur temps dans le magasin à se baisser. Ils ne cherchent jamais de l'aide pour dire, est-ce que tu peux me donner ce qui est vraiment haut ? Eux, leur système, c'est qu'il faut toujours se baisser. Mais Dieu te dit, ne descend pas. Qu'est-ce que je vous dis aujourd'hui ? C'est pas qu'il faut continuer à dépenser beaucoup d'argent. C'est que la sécurisation, par exemple, que tu voulais faire pour la vie de tes enfants et pour leur bien-être, il ne faut pas le sacrifier parce que tu es en temps de crise. Tu comprends ça? Parce que la crise va passer. Mais ce que tu es en train de donner à manger à tes enfants aujourd'hui, ça va rester dans leur organisme pour plusieurs années. Il y a des produits chimiques parfois que l'on découvre dans ces trucs-là. On ne sait même pas ce que ça fait exactement aux enfants. Bon, moi je vous ai pris un exemple par rapport à l'alimentation. Mais ça peut être, adapté à toutes les situations de vos vies. Parce qu'on vous a dit, nous sommes en temps de crise, qu'est-ce que vous n'avez pas accepté de faire? En temps de crise, quand il est allé en Égypte, Abraham a accepté qu'on lui prenne sa femme, sous prétexte qu'on était en temps de crise. J'ai entendu cette histoire d'un homme qui avait accepté de donner sa femme à un autre parce qu'ils étaient très très pauvres. Et puis l'autre lui a dit, moi je te donne beaucoup d'argent si tu acceptes de me donner ta femme. Et puis il en a discuté avec sa femme a dit, oui j'irai, je me sacrifierai. Et puis elle est partie. Il y a des choses que nous ne disons pas, mais qui se pratiquent en temps de crise, qui sont effarantes, effrayantes. Les gens sont prêts à faire aujourd'hui toutes sortes de choses, sous prétexte que nous sommes en temps de crise. Ils sont prêts à accepter toute forme de contrat. Je suivais une émission dernièrement qui parlait des marchands de sommeil. Il y a des gens qui sont prêts à payer 2000 euros, 2500 euros pour vivre dans un 10 mètres carrés avec leurs deux enfants, papa, maman et les deux enfants, parce que nous sommes en temps de crise du logement. Parce que nous n'avons pas d'autre choix. Mais Dieu dit, même en temps de crise, ne descends pas. Ça veut dire que tu peux rester en temps de crise et garder le même niveau de vie. Si tu sais comment faire, si tu sais t'organiser, si tu sais marcher sous la protection de Dieu, c'est cela qui a sauvé Isaac en temps de crise. Ce n'est pas son intelligence, ce ne sont pas ses diplômes. C'est que Dieu lui a dit, reste là et moi, je vais te bénir. Dieu est en train de prendre un engagement ce matin vis-à-vis de chacun d'entre nous. Je dis cet engagement qu'il a pris pour Isaac, Dieu est en train de le prendre pour chacun d'entre nous. Ces promesses bibliques sont des promesses que nous avons aussi en partage. Ce matin, je ne sais pas ce que tu avais prévu de faire, mais Dieu te dit ne descends pas. Je ne sais pas, peut-être que dans ta justice et dans ta droiture, tu avais accepté de faire des choses qui ne sont pas recommandables. Tu avais accepté peut-être de travailler avec les papiers de quelqu'un d'autre parce que tu es en situation irrégulière. Mais Dieu te dit ne descends pas. Qu'il y a des choses que tu dois refuser. Parce que si jamais tu acceptes que ces choses-là s'attachent à toi, alors tu acceptes que la crise te marque. Tu acceptes que la crise s'attache à ta personne. Et Dieu dit, ne descends pas. Tu payais tes impôts toujours avec précision, avec exactitude, avec droiture. Mais parce que tu es en temps de crise, tu commences à réfléchir aux malversations que tu peux mettre en place. Dieu dit, ne descends pas. Tu payais toujours tes factures sans difficulté. Et puis, là, tu es en train de chercher les moyens pour escroquer la personne qui t'a fait cette affaire. Dieu te dit, ne descends pas. Voyez-vous, la crise ne sera jamais une justification de notre descente. Jamais une justification de notre baisse au niveau de nos standards. Les standards des enfants du royaume des cieux sont toujours très, très élevés. Dieu dit, ne descends pas. Oui. C'est le secret pour prospérer en temps de crise. Vous pouvez trouver du grain en Égypte et baisser dans votre spiritualité. Les frères de Joseph étaient bien contents d'aller en Égypte. Parce qu'ils fuyaient la famine chez eux. Sauf que quand ils sont arrivés et qu'ils ont vu qu'il y avait du grain, Joseph leur a dit, mais le pays est bien, allez chercher papa. Ils sont allés chercher leur père. On a ramené toute la famille, toute la tribu, tous les animaux, tout le monde. On s'est installé au pays de Goshen. Sauf qu'on ne savait pas que là où on était en train de s'installer là, on allait faire de nous des esclaves pendant 400 ans. Pourquoi? Parce qu'on est descendu en Égypte. Les choses que tu acceptes aujourd'hui pour sortir de 2 jours de crise risquent de t'accompagner pendant 10 ans, pendant 20 ans. Il y a des choix que nous faisons aujourd'hui qui vont être déterminants pour notre destinée. Parce que chacun d'entre nous, autant que nous sommes le résultat de nos choix. C'est les décisions que nous avons prises qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Alors tu peux faire le bon choix. Même lorsque c'est difficile de dire « Je suis un serviteur de Dieu, je ne descends pas. » Je suis un prince, je suis une princesse, je ne descends pas. On te dit « Mais vous n'avez qu'à faire une simple fausse déclaration pour avoir telle aide supplémentaire. » Tu dois être capable de dire « Je suis un serviteur de Dieu, je ne descends pas. » Je ne m'abaisserai pas à cela. Parce que quand tu as accepté de t'abaisser simplement pour un séjour, tu risques de mourir là-bas. Tu risques de mourir dans le vol. Tu risques de mourir dans la malhonnêteté. Tu risques de mourir dans les fausses déclarations. Simplement parce que tu as accepté à un moment donné de t'abaisser. Et Dieu ce matin nous dit, à nous chrétiens, ne descends pas. Beaucoup de gens, quand ils partent des pays dans lesquels le réveil est en train de se manifester, en Afrique, en Afrique centrale, en Afrique australe, en Afrique de l'Ouest, ainsi de suite, vous avez des gens qui arrivent ici. On dit que la France serait le cimetière des serviteurs de Dieu, le tombeau des chrétiens. Parce que vous avez des gens qui étaient de véritables intercesseurs. Des gens, quand ils se mettaient à prier, le ciel s'ouvrait, le feu tombait. Et puis quand ils arrivent en France, bon, on commence à manger un peu plus de couscous ou de semoule et à prier moins. Ce sont des gens qui, au fur et à mesure, descendent. Et au fur et à mesure qu'ils descendent, vous savez, le diable... Il agit avec beaucoup de malice. Il va tout faire pour que vous ne vous rendiez pas compte que vous êtes en train de baisser. Il va tout faire pour que vous ne vous rendiez pas compte que là, les choses que vous êtes en train de faire là, sont en train de vous emmener à diminuer. Il y a beaucoup d'entre nous comme ça. Il y a longtemps que nous ne prions plus. Mais comme Dieu continue d'agir dans nos vies, nous avons l'impression qu'il n'y a pas de problème. Non, je ne suis pas vraiment descendu. Beaucoup d'entre nous, nous ne lisons plus la Bible. Mais comme nous entendons encore la voix de Dieu, à titre d'information, ce n'est plus la voix de Dieu, c'est l'écho de la voix de Dieu. Dieu vous a parlé il y a longtemps. Et ce que vous entendez aujourd'hui, ce n'est plus sa voix, c'est juste l'écho. Et cet écho-là vous donne l'impression que vous êtes toujours en intimité avec lui. Mais si vous vous arrêtez un seul instant et que vous regardez au plus profond de votre cœur, vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème et que vous n'êtes plus intime avec lui. Il dit, la seule chose que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, reviens. Oui, il dit, ne descends pas. Ne descends pas. Quels sont les standards que Dieu a fixés par rapport à ta vie? Lorsque tu t'es converti, comment est-ce que tu servais Dieu? Comment est-ce que tu sacralisais le temple de Dieu? Comment est-ce que tu sacralisais les serviteurs de Dieu? Et comment aujourd'hui est-ce que tu fonctionnes? Tu es descendu. Quel est le sacré que tu reconnaissais à l'offrande? Aujourd'hui, ça devient une routine. tu es descendu. Or, dans un temps de crise, s'il y a une chose qu'il ne faut jamais faire, c'est descendre. Alléluia. Je nous dis qu'il est possible de prospérer. C'est ma foi, c'est ma conviction. À titre personnel, c'est lorsqu'on a commencé à parler de crise que ma femme et moi, on a trouvé notre logement. Oui, notre fille allait naître et moi, je considérais que même si c'est la crise, Dieu est bien au courant que nous avons besoin de trouver un logement plus grand. Donc, je suis allé. À cette époque, je ne travaillais pas. Comment je vais dire ça? Je n'avais pas de revenus. Je ne travaillais pas. Ma femme ne travaillait pas. J'ai pris le numéro de téléphone, j'ai donné de l'argent à une agence qui devait me donner des adresses. J'ai trouvé une adresse qui correspondait à ce que je voulais, j'ai appelé le propriétaire, je me suis déplacé. Et puis j'ai parlé avec lui. Un mois après, nous sommes rentrés dans l'appartement. Et ça s'est passé en temps de crise. Donc j'ai une foi, moi j'ai signé mon contrat justement quand on disait qu'on est en temps de crise. Et puis quand on disait la crise est encore plus forte, j'ai une promotion. Je veux aider des gens. Quand on a dit l'année là, c'est une année extrêmement difficile pour l'entreprise. Moi, j'ai eu 3 augmentations de salaire. Ce que je vous dis, c'est ce qui est vrai. Si vous avez la foi et que vous choisissez d'écouter plutôt la voix de Dieu que la voix des reporters télévisés, vous prospérerez même en temps de crise. La Bible dit que Isaac devint fort riche. Il est devenu tellement riche que celui qui l'avait accueilli lui a dit, tu ne peux pas rester ici parce que tu es beaucoup plus puissant que nous, va-t'en. Isaac est parti, mais il est parti en laissant ce qu'il avait, sauf qu'il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas laisser. Le qu'y a-t-il dans ta main? Il y avait une parole que Dieu avait prononcée sur sa vie. Dieu lui avait dit, je te bénirai. Isaac est parti. La Bible déclare qu'il a commencé à creuser un puits dans le désert. Quand il a creusé le puits, il a trouvé de l'eau. Les serviteurs d'Abimélec sont venus en lui disant, l'eau nous appartient. Isaac n'a pas discuté. Tu sais pourquoi il n'a pas discuté? Parce qu'il avait une parole. Il disait, je peux te donner ça, il n'y a aucun problème. Il a appelé ce puits du nom d'Essek, qui signifie dispute. Il est allé à un autre endroit. Et puis il a creusé à nouveau. Et il a trouvé de l'eau. On est venu le voir, on a dit, ça nous appartient. Il a dit, non, ça s'appelle querelle. Il a laissé, il est parti. Et il a encore creusé un troisième puits. Et ce puits-là, quand l'eau est sortie, il n'y a personne qui est venu le voir. Parce que c'était le puits qui était le plus éloigné, le plus loin de la ville dans laquelle on l'avait chassé. Il fallait qu'il aille en profondeur dans la parole de Dieu, en profondeur dans la promesse de Dieu. Il fallait qu'il accepte de s'éloigner, de se couper de toute logique, de se couper du confort de toute la ville et qu'il décide pleinement de s'embarquer. Et lorsqu'il a creusé ce puits, il l'a appelé Rehoboth, ce qui signifie l'Éternel nous a maintenant mis au large. Je dis, pendant ce temps de crise, l'Éternel veut t'appeler Rehoboth. L'Éternel veut te donner un Rehoboth. Il veut te mettre au large. Mais pour ça, il faut que tu acceptes de t'engager pleinement dans sa chose, de marcher pleinement dans sa parole. Alléluia, et je le crois, la bénédiction qui est tombée sur Isaac tombera sur toi également.